la Banque Van Breda, vous méritez plus de temps. Plus de temps libre pour écouter le brief pendant que nous nous chargeons activement de votre liberté financière. Banque Van Breda.
Bonjour, nous sommes le lundi 19 février et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
Le brief de l'Écho.
Il est professeur et chercheur à Loucet-Louvain où il enseigne notamment la cybersécurité. Il est aussi spécialiste de l'intelligence artificielle. Il se décrit volontiers comme atypique dans son secteur, mais il est très présent sur les réseaux sociaux, mais autant pour des raisons professionnelles que pour poster des photos de chats à adopter. Axel Leguet est mon invité ce matin. Bonjour Axel.
Bonjour.
J'avais trouvé ces éléments dans un portrait qu'on avait fait de vous dans l'Écho en 2020. Cela correspond toujours à la réalité ?
Toujours à la réalité, un peu moins présent sur les réseaux sociaux.
On va parler de techno évidemment ensemble et puis de la place qu'elle prend dans nos vies. Une place grandissante avec l'intelligence artificielle, mais peut-être mieux encadrée grâce au Digital Service Act. Je suis Laurent Fabry, je reçois Axel Leguet dans le brief ce matin. Bienvenue.
Le brief, cette info, dès 7h.
Le Digital Service Act, le DSA, retenez bien cet acronyme, on risque d'en entendre parler encore souvent. Le règlement de l'Union européenne sur les services numériques est entré en vigueur ce samedi. Il vise à mieux protéger les utilisateurs en imposant aux plateformes en ligne des obligations et des restrictions, finalement à la mesure de leur puissance. Alors très concrètement, qu'est-ce que cela change, cette nouvelle réglementation, et comment est-ce que cela va mieux protéger les consommateurs, Axel ?
Alors, on est avec des plateformes qui sont intermédiaires et qui, d'habitude, en fait, sont un peu dans le Far West. Hein, donc, elles ne sont pas très contrôlées. Et par exemple, en termes de contenu en ligne, il est actuellement très difficile de signaler des contenus indésirables, voire de modérer ce qui se passe sur ces plateformes. Il est parfois aussi très difficile de comprendre les algorithmes de recommandation de ces plateformes. Et bien, avec le DSA, tout ça va changer. Il va y avoir des obligations. Et par exemple, demain, si une personne est harcelée en ligne, eh bien, il y aurait une obligation de stopper cela.
Alors globalement, ce règlement européen vise surtout 22 grandes plateformes et fournisseurs de contenu, des groupes qui sont ultra majoritairement américains ou non européens en tout cas. Est-ce que ce règlement aura une véritable portée sur ces groupes-là ?
Je pense qu'il va les amener à réfléchir parce que même si ces groupes sont américains et en effet ce sont surtout eux qui sont visés, mais n'oublions pas les groupes chinois, TikTok en est un bel exemple, ils ont quand même tous ces groupes des obligations d'être sur le sol européen. Ce qui veut dire que sur le sol européen, on va pouvoir les sanctionner en tant que Commission Union Européenne, là où à l'époque, quand il devait y avoir sanctions, c'était au niveau de la Belgique, par exemple, que ça se passait. Et donc, quand on a 11 millions de citoyens ou quand on a 500 millions, il y a une énorme différence quand même. Donc, ce règlement a une bonne portée.
Alors, ceci dit, le DSA ne vise pas que ces géants du net, mais aussi, en fait, toute entreprise, des moments où elle a un réseau. Quel impact pour les entreprises plus petites, finalement ?
Eh bien, effectivement, tout ce qui fait intermédiaire, en fait, est visé. Donc, les entreprises plus petites devront aussi se conformer, avoir des services de modération, faire attention à ce qui est posté en ligne. Il faut dire qu'en Belgique, on ne sera pas vraiment impacté parce qu'on est assez vertueux de ce point de vue-là. Mais d'autres pays pourraient l'être, oui.
Alors, on vient de parler des grandes plateformes en ligne que l'on retrouve notamment parmi les Magnificent Seven avec Apple, Amazon, Microsoft, Meta, Alphabet, Tesla et Nvidia. Nvidia, d'ailleurs, qui est le dernier des sept à donner ses résultats, ce sera ce jeudi. Déjà cette semaine, le fabricant de puces dédié à l'intelligence artificielle s'est hissé à la 4e place des plus grosses capitalisations boursières dans le monde, devant Alphabet et Amazon. Et depuis le début de l'année 2023, l'action Nvidia a vu sa valeur multipliée par 5. Ses résultats sont donc très attendus. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre selon vous, Axel ?
C'est très compliqué parce que parfois on a eu l'impression qu'il y aurait des bons résultats pour Nvidia et on a eu des résultats en recul. Ça s'est passé un peu l'an passé. Mmh. Et parfois on s'attendait à de mauvais résultats, on a eu de très bons. Donc on va de 1 à 3 en ce qui concerne la valeur de l'action. À mon avis, ce sera quand même de bonnes nouvelles ou en tout cas pas de mauvaises parce qu'on est vraiment dans une explosion de l'intelligence artificielle générative et ce que vend Nvidia, ce sont des GPU, donc c'est-à-dire des processeurs extrêmement rapides pour l'IA. Je ne m'attends pas à ce que cette société s'écroule dans les mois qui viennent.
Alors, ces géants dont on vient de parler sont devenus absolument incontournables aujourd'hui. On peut critiquer leur situation de quasi-monopole, mais en même temps, on ne fait pas grand-chose pour les en empêcher, finalement.
Non, on est dans le cas d'hypermarchés français. Moi, je les compare à des hypermarchés. Ils deviennent tellement gros qu'ils n'arrivent plus à s'autogérer. Et donc, ça veut dire aussi qu'il y aurait en fait de la place pour des entreprises de taille plus petite, hein, qui pourraient être extraites de ces grands groupes. Mais c'est compliqué de créer cela. Alors, aux États-Unis, on le voit, OpenAI, en fait, n'est pas aussi grand que Google, par exemple, ou que Microsoft. Et il y a eu une place pour OpenAI, alors que Microsoft et Google faisaient déjà de l'IA. En Europe, c'est effectivement un peu plus compliqué parce que l'esprit d'entreprendre malheureusement est un peu en diminution hein, sur notre continent, il ne faut pas se le cacher. Et aussi, on fera peut-être le lien avec l'agriculture plus tard, parce qu'au niveau de l'administration, c'est extrêmement compliqué et extrêmement difficile d'entreprendre dans un pays comme la Belgique à l'heure actuelle.
Et d'après le Financial Times, la Commission européenne s'apprêterait à infliger une amende de près de 500 millions d'euros à Apple en raison de sa politique sur son Apple Store. L'annonce pourrait être faite au début du mois prochain. Si Nvidia brille de mille feux, un tel succès, c'est essentiellement grâce à l'intelligence artificielle. L'acteur le plus célèbre dans le milieu, c'est évidemment OpenAI. Mais le concepteur de ChatGPT n'est pas le seul ou n'est plus le seul sur le marché. Pas mal d'anciens employés d'OpenAI ont d'ailleurs créé des startups dans le même secteur. Et parmi les rejetons d'OpenAI, il y en a un qui a été fondé par un Belge, tiens. Avec d'autres anciens, Peter Abbe l'a créé en 2017, une société qui entend automatiser les grands entrepôts du commerce électronique. Covariant, c'est son nom, travaille entre autres pour Radial, la filiale américaine de Bpost. Alors le marché est encore vaste évidemment, mais est-ce que l'Europe n'a pas pris un peu de retard dans le secteur de l'intelligence artificielle ?
Alors oui, l'Europe n'a pas pris un peu de retard, il faut être très clair, elle a pris énormément de retard et elle peut le rattraper parce que ce qu'il faut bien se rappeler, et vous venez d'en donner un exemple avec Covariant, c'est qu'en fait beaucoup de personnes qui sont innovantes en intelligence artificielle sont des Européens qui vont dans des compagnies américaines ou asiatiques, mais nous avons encore en Europe un excellent système éducatif et si demain on donnait à cet excellent système éducatif la transition pour entreprendre, je pense qu'on pourrait redevenir continent numéro 1 là où à l'heure actuelle il faut préparer notre population à ce que nous ne soyons plus que le quatrième continent de l'intelligence artificielle si les choses continuent en l'état.
Vous évoquiez tout à l'heure la lourdeur administrative, la réglementation en Europe, parfois trop lourde. C'est ça le problème finalement en Europe ?
Alors, la réglementation n'est jamais le problème. Si on prend par exemple le règlement pour la protection des données, le fameux RGPD, il a été adopté en Californie. Donc la réglementation n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est l'interprétation que l'on en fait, l'allongement de la vérification des règlements et toute autre chose. Donc en fait, une bonne réglementation, eh bien, ça protège les citoyens et ça protège les investisseurs aussi. Donc ce n'est pas négligeable. Par contre, il y a la mise en œuvre de la réglementation et en Europe, force est de constater que administrativement, ça ne va pas. On ne peut pas continuer comme ça.
Alors d'intelligence artificielle, il en sera encore énormément question à Barcelone la semaine prochaine pour le Mobile World Congress. C'est la grande messe de la téléphonie et de la technologie mobile. On y reviendra évidemment longuement la semaine prochaine, mais à votre avis, de quoi sera fait le téléphone portable de demain, Axel ?
Alors au départ, il va être pliable, hein, c'est déjà le cas avec les téléphones actuels, mais demain, en fait, le téléphone portable, de mon point de vue, n'existera plus, dans le sens où il sera en vous. Puisqu'on parle de plus en plus d'humains augmentés, donc pourquoi s'encombrer d'un téléphone, d'une pièce qu'on peut perdre, qui peut tomber, qu'on peut nous voler ? Un téléphone portable de demain, il sera en vous avec une intelligence artificielle intégrée. Vous pourrez téléphoner en pensant, vous pourrez traduire en pensant, vous pourrez avoir plein de fonctionnalités, mais ce sera sous la forme d'un humain augmenté. Et Elon Musk a déjà évidemment commencé à regarder tout ça. On peut s'attendre à ça, ça peut paraître atypique pour notre génération, parce qu'on n'est pas préparé à avoir des puces partout en nous. Mais posez un peu la question aux jeunes de 10-12 ans à l'heure actuelle, demandez-leur si ça les choque et en fait, pas tant que ça.
En Ukraine, la Russie a enregistré une importante victoire ce week-end avec la prise d'Avdiivka suite au retrait de l'armée ukrainienne à court de munitions. Samedi prochain, cela fera 2 ans que les chars russes sont entrés en Ukraine. 2 ans de guerre aux portes de l'Europe. Une tension que l'on n'avait plus connue depuis la guerre froide, mais une situation qui a au moins le mérite de mettre en lumière la nécessité pour l'Europe de se réarmer, de restaurer ses capacités de défense et donc son industrie de la défense. La ministre belge de la Défense, Ludivine Nedander, et Stéphane Burton, le patron du groupe aéronautique Orizio, le répétaient d'ailleurs dans l'écho ce week-end. À la fin de ce mois, la Commission européenne proposera un programme d'investissement et une stratégie industrielle pour le secteur de la défense. Alors Axel, vous êtes expert en cybersécurité, mais aussi en sécurité. Ce réarmement de l'Europe, c'est vraiment une nécessité.
Alors c'est une nécessité et en termes de souveraineté, je vais même dire que c'est plus qu'une nécessité, c'est indispensable. On doit à nouveau maîtriser les fondements même de notre défense. À l'heure actuelle, on achète des avions américains. Il ne faut pas oublier qu'en fait, ces avions, on ne les contrôle pas entièrement. Il y a une partie de la technologie à laquelle on n'a pas accès. Il est important à ce que l'on revienne à une technologie européenne fabriquée sur le sol européen. Je rappelle qu'il y a plus de citoyens en Europe qu'aux États-Unis et plus de capacités de travail en fait en Europe qu'aux États-Unis. Donc rien sur le fond ne l'empêche, mais évidemment il faut une volonté et une coordination. Et quand j'entends parler de tous ces plans qui s'accumulent, je me dis mais combien de temps faudra-t-il encore pour les mettre en œuvre alors que toutes les capacités et toutes les intelligences sont présentes et la volonté de travail est présente elle aussi. Donc il est vraiment temps de cesser de parler et d'agir.
Alors cette guerre avec la Russie, elle ne se passe pas que sur le terrain militaire en Ukraine, elle passe aussi sur les réseaux sociaux. Il y a une véritable stratégie russe de désinformation pour légitimer la guerre en Ukraine, mais aussi pour faire pression sur les prochaines élections en Europe, Axel.
Les réseaux sociaux, en fait, c'est la façon de communiquer avec un électeur. Les électeurs lisent plus vite les réseaux sociaux qu'ils n'écoutent la TV ou qu'ils n'écoutent leurs parents ou amis. Les réseaux sociaux sont devenus une vérité. Donc il y a beaucoup de données qui circulent sur les réseaux sociaux et qui contrôle ces données, évidemment, est puissant. Ce que la Russie a développé, c'est une capacité à pénétrer ces réseaux sociaux de façon plus ou moins insidieuse et de les influencer, donc d'influencer le contenu. Ils l'ont déjà fait par le passé en 2016, à l'élection de Trump. Ils ont réessayé avec l'élection de Macron. Les Français étaient un peu mieux préparés, donc ça s'est moins bien passé pour eux. Mais ils réessayent régulièrement. Et je rappelle qu'il y a des grandes plateformes de diffusion européennes qui régulièrement deviennent russes parce que à force de demandes et de contenu, l'algorithme de recommandation finit par orienter un petit peu la façon de penser. Donc vous voyez, on peut faire ça au moment des élections. C'est ce qui a fait élire Donald Trump à l'époque. Il faut pas l'oublier. Et c'est ce qui pourrait probablement le faire réélire l'année prochaine.
Alors nous reviendrons en détail sur ces 2 ans de guerre et leurs conséquences pour nous, pour nos entreprises, dans un brief spécial qui sera en ligne ce jeudi. Le salon Batibao a ouvert ses portes ce week-end, il restera ouvert jusqu'à dimanche prochain. Batibao, c'est le plus grand salon de la construction, de la rénovation et de l'aménagement, alors même s'il est un peu en perte de vitesse comme d'autres grands salons. Et dans la construction aussi, Axel, la technologie est omniprésente.
La domotique, la régulation, on a des panneaux solaires, on a des pompes à chaleur. Demain, il y aura 4 tarifs différenciants pour l'électricité et on voudra en fait bénéficier de son énergie au meilleur moment, donc se coordonner le plus possible pour éviter ce que le ministre Henry a appelé mercredi soir le tarif punitif. Et donc une maison domotique équipée des nouveautés énergétiques mais qui est aussi coordonnée et donc intelligente vaudrait probablement beaucoup plus cher qu'une autre maison.
C'est aussi l'occasion de remettre un coup de projo sur l'évolution de l'immobilier. Selon le dernier baromètre des notaires, le nombre de ventes immobilières a chuté de plus de 15% l'année dernière en Belgique. Par contre, malgré le recul des ventes et la hausse des taux, les prix ont continué de grimper, et cette fois plus vite en Wallonie qu'à Bruxelles. Retrouvez d'ailleurs tous les détails des prix, commune par commune, grâce à notre outil interactif sur l'echo.be. Quelques dates à retenir cette semaine. Aujourd'hui, une conférence de presse de Ursula von der Leyen qui pourrait annoncer sa candidature à un nouveau mandat de présidente de la Commission européenne. Mardi, donc demain, résultat de Barclays, de Carrefour et de Walmart notamment. Vendredi, ce sera au tour de BASF et de Allianz. À suivre également cette semaine, l'indice européen Stoxx 600 qui pourrait dépasser son niveau record de janvier 2022 à 494,35 points. Il était à 491 points vendredi à la clôture. Et puis samedi, ce sera l'ouverture du Salon de l'agriculture à Paris, ce qui promet d'être assez chaud dans le cadre de la grogne agricole que l'on connaît actuellement partout en Europe. Merci Axel Le Guay pour vos éclairages dans ce brief.
Merci.
Je vous retrouve demain avec très grand plaisir. Passez une bonne journée.
Vous méritez plus de passion. Vous méritez plus d'anticipation. Vous méritez plus d'anticipation de la part de votre partenaire patrimonial pour que vous puissiez toujours rester serein, même quand la bourse s'enflamme. Vous méritez également plus de Banque Van Breda pour votre vie professionnelle et privée. Banque Van Breda, réservée aux entrepreneurs et aux professions libérales.